Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui vous dit que ça caille dehors.
Et voilà toute notre sympathie à la personne qui arrivera à découvrir de quel film nous faisons une jolie référence ce matin, où on se les gèle.
Et oui, mais comme toute la France, je pense, sauf que nous, en plus, on n'a même pas droit à la neige, donc on a tous les inconvénients sans les avantages.
On a le soleil.
Ouais, trop bien. Alors, on va entamer un petit programme fort sympathique, car nous sommes le compte à rebours est lancé. Le compte à rebours est lancé. Dans 15 jours, vous entendrez sur ces ondes internetiennes, balado diffusée, le fantastique épisode où nous avons reçu le gang. Nous en avons encore un souvenir ému, parce qu'on les a reçus il y a quand même maintenant quelques semaines. On voulait faire ça bien, préparer tout nickel. Une petite émission d'une heure et demie, on parle de plein de BD, on parle un peu de leur technique de travail, de ce qu'ils font. Donc le gang, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce sont les scénaristes de la bande dessinée des Geeks, dont on a déjà critiqué deux numéros, et dont on aurait pu en critiquer un dernier si j'avais pensé à le passer à Thio. Thio, qui donc se caille et qui va bien, n'est-ce pas Thio?
Yeah.
Bon, je suis toujours One Eye Pied, nous sommes toujours One Eye Club, et nous allons très très vite commencer par un petit truc, les news, techniques, etc. Nous avons un nouveau site.
Pied a bossé des heures et il a fait un taf de folie.
Voilà.
Et franchement, j'ai rien fait.
Oui, mais ça, hein, bravo. Toi, à part parler dans le micro... Hein.
Ah si, il m'a envoyé un lien, il m'a dit « Tiens, regarde, t'es administrateur sur le site ». Je suis arrivé sur le site, j'ai fait « Putain, mais il est pourri le nouveau site ».
Oui, en fait, il était juste sur l'interface d'administration, donc bon. Voilà, moquez-vous de lui.
Hey, je suis une buse, mais je l'accepte, hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci.
Heureusement que je suis pour la technique. Alors, je voudrais d'abord remercier Claire de Comic City, qui m'a donné un super coup de main pour configurer les trucs de flux RSS, machin, chose, podcast, bidule, qui vous permettent de nous écouter dans des conditions correctes et sans qu'en théorie, il y ait une interruption de service pour vous. Normalement, c'est transparent. La nouvelle adresse, c'est lavoisdesbulles.fr, donc ça va être le site qui va héberger le podcast et peut-être d'autres choses entre-temps.
C'est notre nom. À nous.
Ouais, lavoisdesbulles.fr, ça pète. Hein. Le site devrait être encore plus beau quand mon frère se sera sorti les doigts et qu'il nous aura fait une superbe,
superbe
bannière.
Oh putain, il neige dehors. Yann se sort les doigts sans doute.
Ouais, non, il ne neige pas. Tu m'as fait peur. Et on va enchaîner avec
du presque Batman, neuf. Du Batman.
Donc nous parlons de Batman Universe numéro 3, qui est déjà super introuvable. Je crois que j'ai déjà vu sur internet vendu à 45 euros. Oui.
Mais il y a des mecs qui n'ont pas de race quand même.
Il y a des mecs qui n'ont pas de race, voilà. Qui continue le renouveau de la série Batman en kiosque chez Panini Comics, en nous servant la nouvelle série Batman et Robin par Grant Morrison et Frank Quitely. Tu vois, j'ai fait ouais. Frank Morrison et Grant Quitely. Et la série Batman, qui est scénarisée par Jude Winnick, qui est dessinée par Mark Bagley. Donc nous avons trois épisodes qui forment l'histoire complète. Et je vois à la tête de Thio que ça n'a pas été la joie. Alors bon, déjà, que raconte cette histoire?
Donc la bataille pour la cagoule est terminée. Ça y est, on a un nouveau chef.
Et le nouveau chef, c'est l'ancien Robin, c'est Dick Grayson.
Ouais. Et on a un nouveau Robin.
Oui, qui est Damian Wayne.
Voilà.
Et qui est un petit con.
C'est un ado, quoi.
Ouais, mais alors, ça change des Robins qu'on a eu jusqu'ici.
Ouais, enfin, un petit con qui est un ado, c'est quelque part un truc normal.
Enfin, oui, mais jusqu'ici, les Robins étaient tous « Oh, Batman, tu es grand, tu es fort, tu m'as sorti de la misère !» Lui, c'est « Bon, je vais t'expliquer, parce que moi, j'ai été élevé par une secte d'assassins. Je suis un super tueur de la mort, et j'ai pas peur. » Hein, et je vais t'expliquer ce qu'il faut faire, et donc je vais faire des conneries. Enfin, un Robin qui a de la personnalité, quoi, ça fait plaisir, et qui se contente pas de sortir des blagues à deux balles pendant les bastons.
Non, c'est vrai. C'est vrai.
Voilà.
Non,
bon.
Je le reconnais. Après, une jolie couverture, hein. Là on est bien. Oui. On et revient à 70 presque. Hein.
Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté jaune. Et donc ce qui se passe surtout, c'est que c'est un peu les débuts de la confrontation entre les deux. Dick Grayson a un peu du mal à découvrir son nouvel attirail de Batman.
Ouais, bah il se découvre une nouvelle vie. Hein,
c'est... Et ils ont affaire à un tueur qui est Mr. Pig, ou Dr. Pig, je ne sais plus.
Dr. Pig.
Dr. Pig, qui enlève des gens et qui leur greffe sur la peau des visages. Enfin, c'est un peu gore, quoi.
Très gore.
Voilà,
très
et ils gore. Enquêtent pour le trouver, classiquement, sauf que Damien, comme Damien, va un peu faire le coup. L'histoire est complète. Je trouve que c'est un très très bon point d'entrée dans la série, si on n'a pas suivi ce qui s'est passé ces derniers temps. Mm. Qu'as-tu pensé du scénario pour démarrer ?
Tu veux pas qu'on parle des graphismes ?
On va parler du scénario d'abord, on parlera des graphismes après. Allez.
Écoute, au niveau scénario, voilà, bon, bah, c'est le début. Hein, on va dire que c'est comme tous les débuts, il faut que ça se lance, il faut que ça monte. Bon, intéressant, on va dire, le questionnement du nouveau Batman sur qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, qui doit être. Parce qu'il faut qu'il arrive à se positionner, en fait.
Et puis des gens arrivent à qui ont l'habitude de fréquenter Batman, se rendent un peu compte.
Ben, les flics, de suite, quand ils l'appellent, ils font « mais il n'a pas la même voix, c'est pas le même ».
Ils ne se déplacent pas pareil.
Ouais.
Alors, je sais plus qui m'a raconté que dans un tome de Batman un peu plus tard, tu as le commissaire Gordon qui regarde, qui lève les yeux et qui fait « mais vous êtes encore là ?» Parce qu'en gros, il ne s'est pas disparu pendant qu'il tournait la tête. Voilà. Donc, il s'amuse beaucoup avec ce côté... C'est pas Bruce Wayne.
Bah, c'est pas le même. Mm. Mais par contre, moi je me suis, ouais, voilà, je me suis fait un peu chier quoi.
Ouais.
Bah, il est où le Batman, tu vois, un peu obscur quoi, le mec qui tatane la gueule au méchant quoi.
Bah c'est plus Bruce Wayne.
Bah ouais, mais justement,
moi c'est Damien qui est là pour montrer ce côté-là.
Ouais, mais excuse-moi, tu mets un petit gamin en collant, ça me fait pas rêver quoi.
Attends, déjà ils lui ont mis des collants qui étaient gris plutôt que des collants verts.
C'est pas
il évolue.
Ouais, c'est sûr, il a découvert que c'était plus joli, mais bon, ouais, non.
Donc Grant Morrison t'a déçu.
Bah écoute, faut peut-être voir sur la longueur, peut-être qu'encore une fois, voilà, dans la continuité, oui, ça va monter en puissance et ça va vraiment me plaire. Là, pour l'instant, Batman, bon, en même temps, c'est vrai que j'avais aussi, j'ai vraiment un archétype de Batman dans ma tête qui fait que, voilà, c'est le guerrier solitaire, quoi.
Oui, mais là, c'est Batman et Robin, la série. Bah moi, le scénario, j'ai trouvé plutôt sympa. Alors, c'est vrai que ça avance pas super beaucoup, c'est un peu... Mais ça me montre bien la relation, justement, entre ce nouveau Batman et ce nouveau Robin, qui est assez conflictuel et assez complexe à gérer. Puis avec Alfred aussi, au milieu, qui n'a pas vraiment la même relation avec Dick Grayson, qu'il a connu quand il avait 10 ans, qu'avec Bruce Wayne, qu'il a connu aussi quand il avait 10 ans, mais il n'était pas dans le même état mental. Et non, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa au niveau de l'histoire. Alors c'est vrai que c'est plus du prétexte, tu vois, au niveau de pour mettre l'ambiance. Le méchant, c'est vrai qu'il n'est pas super intéressant. Enfin si, il est intéressant pour son côté un peu gore, un peu sombre, mais ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Mais c'était pour moi vraiment un moyen de montrer cette relation entre deux personnages que je trouve sympa. Le dessin, Frank Quitely.
Ah là, par contre, ça pète. Franchement, c'est voilà, moi j'ai trouvé ça super dynamique. On alterne dans tous les plans, il y a de la baston, mais c'est en même temps, je trouve, très réaliste par moment.
Ouais.
On revient vraiment sur du comics sur d'autres pages. Puis voilà, les choix d'angle.
Toi, on le connaissait déjà pour avoir déjà bossé. C'était avec Morrison, il me semble. Hein, il avait bossé sur New X-Men. Il a fait The Authority aussi. Et son style va en s'améliorant.
Ouais. Non, là, moi, franchement, je me suis vraiment...
Les onomatopées. Il dessine les onomatopées. C'est-à-dire que plutôt que de faire comme ça se fait de plus en plus dans les comics où il y a le lettreur qui rajoute les onomatopées, là, il les dessine et elles passent super bien. Alors, la couleur, en plus, les intègre à merveille au milieu. Le dessin est super sympa et c'est vrai que, alors qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est très dynamique. Bon, passons. Le début de l'autre histoire avec Jude Winnick au scénar et Mark Bagley au dessin. Alors,
juste par contre, excuse-moi deux secondes, on a quand même une fin qui ouvre sur un...
Oui, sur une suite avec un retour d'un personnage.
Je connais pas en fait.
Ah, tu connais pas ?
Non.
D'accord, bon bah on va pas spoiler les gens, il y a le retour d'un personnage qui va revenir, qui est juste censé être mort.
Le retour d'un personnage qui va revenir de son retour en fait.
Qui est censé être mort, mais ça voilà, je l'ai appris en écoutant Comic City, qui est censé être mort.
C'est donc, le comeback du retour.
L'autre histoire... qui s'intéresse plus à Batman tout seul et plus au côté un peu politique de Gotham. On est plus dans la suite de la lutte pour la cagoule.
Oui. Mais...
Je crois qu'on dit la lutte pour la cagoule depuis le début du podcast et qu'on en parle, mais je crois que c'était la lutte pour la cape, hein, en français.
Ouais, mais je crois que j'avais dit cape au début, t'as dit cagoule et moi je t'ai cru.
D'accord, bon.
Je suis comme ça, moi.
Parle dans le micro.
Ouais, mais en fait, là, je suis en train de réaliser, mais est-ce que je l'ai lu, celle-là ?
Ah, d'accord. Bon, alors...
En fait, non.
Nous avons... d'accord, tu t'es arrêté...
Non, parce que je suis en train de dire, putain, ouais, j'ai lu le début, mais en fait, je me suis arrêté...
D'accord.
Je me suis arrêté à la transition.
Donc, en gros, nous avons Jude Winnick qui s'intéresse... oui, voilà, donc je reprends, hein, genre, qui s'intéresse cette fois-ci au côté intéressant de la pègre de Gotham... qui essaye de se remettre en place, etc., de gérer le nouveau Batman, avec le retour de la lutte classique qu'on a depuis un moment, hein, entre le Pingouin et, Black Mask.
Ouais.
Assez sympa, j'ai bien aimé un peu l'approche qu'il y a des relations, des discussions entre Dick et Alfred, quand il explique qu'il n'a pas l'habitude de cette cape, que c'est trop lourd, qu'il n'arrive pas à se déplacer, enfin, plein de points super sympas qui montrent que, bah ouais, c'est pas le même, voilà.
Mais maintenant, quand il casse la bouche à des méchants, il laisse les indices.
Oui.
Pour que les flics puissent réellement les arrêter.
Oui, oui, oui. Il agit différemment. Voilà. Il agit plus intelligemment, en fait. Mais moins radicalement. Bah, c'est plutôt sympa. Moi, c'est le côté un peu... Ouais, ça colle plus au côté sombre que tu dois apprécier. Par contre, Mark Bagley, bah, même si je le trouve un peu mieux que ce que j'avais pu voir sur ce qu'il faisait dans Ultimate Spider-Man, que j'aimais pas trop. Hein. Sur tous ses visages, j'ai toujours eu du mal. Je trouve qu'il y a de l'amélioration, que ça va mieux, que ça colle, il colle mieux à Batman qu'à Spider-Man, je trouve. Mais je suis pas... Enfin, c'est du travail honnête que je trouve pas exceptionnel.
Non, moi, non, graphiquement, je trouve que c'est... Non, c'est bien. C'était... Je regrette peut-être de ne pas l'avoir lu. Du coup, j'aurais peut-être changé d'avis sur le reste, mais...
D'accord. Eh bien...
Non, mais c'était... Non, voilà. À voir. À voir pour la suite. Allez.
C'est donc 4 euros si vous le trouvez dans un kiosque où il en reste. Et, enfin, 4 euros 50, pardon. 60. Allez. Bon. Et 45 euros si vous cherchez sur eBay. Siège numéro 2.
Être ou ne pas être. Telle est la question.
De Brian Bendis et Olivier Coipel. Nous poursuivons la lutte de Osborn pour éclater la bouche...
À tout le monde.
À tout le monde. Et particulièrement à Asgard.
Ouais.
Qui est dans un bled paumé dans l'Oklahoma, je crois, un truc dans le genre.
C'est enfin, ça. Bon. Avec Sentry qui. Enfin, une super couverture. On a Sentry qui a un crâne tout sanguinolent à la main.
Sentry qui repète un plomb. Hein.
Ouais, là, il a pété une durite quand même.
Bah, il était pas très clair au départ hein, dans sa tête.
Donc, on se rappelle pour l'histoire donc, Norman Osborn a sauvé le monde en repoussant l'invasion des
Skrulls.
Et donc, il est devenu le nouvel Iron Man, on va dire, pour faire simple.
Iron Patriot.
Ouais. Et il a décidé de casser la bouche au dieu de Asgard.
En provoquant, en créant un prétexte, en s'arrangeant pour qu'un des dieux de Asgard éclate, enfin fasse exploser un stade en fait. Mm. Plein, bien sûr, sinon c'est pas drôle.
Bah sinon ça aurait pas été drôle. Et donc pour le coup, tous les super-héros, enfin tous les super-vilains qui sont sous les ordres de Osborn attaquent la cité. Et même un,
oui.
Ares, qui...
Qui est un dieu.
Qui est un dieu aussi et qui commence à un peu avoir des doutes. Tellement de doutes que finalement il va dire qu'on l'a peut-être un petit peu
manipulé.
Manipulé,
de la part de Osborn et de Loki qui gèrent l'histoire, c'est à peine surprenant. Bon,
mais j'aurais quand même pensé que Ares aurait cassé la bouche à Sentry.
Donc, combat Ares Sentry, c'est violent, c'est gore, c'est superbement dessiné par Olivier Coipel. Par contre, il se passe pas grand chose en fait. Hein.
Ah, ben en fait, t'arrives à la fin et tu te dis, mais.
Tout ça pour ça ?
Ben, en fait, le plus intéressant finalement, c'est quand on suit.
Le journal de guerre
de Ben Urich.
De Ben Urich, ouais.
Qui a. Comment il s'appelle déjà celui-là ? Ah merde.
Le dieu qui l'accompagne ?
Ouais, je cherche son nom, je l'ai plus.
Bon,
Volstagg.
Volstagg, qui accompagne le dieu Volstagg.
Qui est celui qui est responsable justement de l'explosion du stade.
Dans un style graphique, comme on disait la dernière fois, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sombre. Enfin voilà, c'est une revue sympa si on veut suivre un peu ce qui se passe dans l'event, le gros event du moment chez Marvel. Mais bon, c'est pas... Disons que, comme d'hab sur ces events-là, on va voir à la fin ce qui est bien. C'est aussi bien si vous suivez les autres séries que vous voulez avoir une sorte de lien pour savoir un peu ce qui se passe dans l'univers Marvel, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de tout suivre.
Ce qui est bien, par contre, c'est qu'on retrouve aussi tout le moment. Donc, enfin, il y a quand même Steve Rogers qui essaye de rameuter les vrais gentils.
Oui, c'est vrai qu'il est revenu.
Il est revenu, he's back. Et là, on a retrouvé quand même... Tu as une belle image avec une belle photo de famille.
Une belle image de groupe, oui. Il y en a certains, je suis tellement plus l'univers Marvel, je ne sais même pas qui ils sont.
Oui, il y en a que je connais pas. Il y en a que je connais par le dessin animé.
Ah ouais, même pas, tu vois.
Aïe, la honte. Enfin bon.
Nous allons passer à l'univers Ultimate.
Ultimate.
Et l'univers Ultimate va nous faire parler de Ultimate Spider-Man hors série. Numéro, je crois que c'est un numéro 3 hors série ou un truc dans le genre, non, c'est ça? Non, numéro 1? Ils ont reparti aussi la numérotation 1, donc c'est un Ultimate Spider-Man hors série, toujours par Brian Bendis.
Yes.
Et dessiné par Rafa Sandoval. Alors.
Rappelons-nous que donc la chère Tante May a hébergé tout un lot de SDF.
De SDF super ado.
C'est ça. Et que, ben, on va dire que le monde est un peu en vrac.
Ouais, un peu.
Un peu. Et donc là, on va suivre aussi, en parallèle, ce que sont devenus les 4 Fantastiques.
Oui.
On savait c'est où était ça. La torche. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour les autres.
Bon, en gros, tout l'événement de cette mini-série, qui est Ultimate Enemy, je crois d'ailleurs, c'est le nom de cette mini-série à la base, c'est ça, c'est de nous montrer que d'un coup, il y a un gros méchant qui réplique. Qui détruit le bâtiment de Roxxon Industries, qui est un des nombreux complexes de gens qui font des expériences qu'ils ne devraient pas faire et qui donnent des pouvoirs qu'ils ne devraient pas donner, qu'on a dans tous les univers, dans l'univers Marvel. Et il fait bien sûr tout péter et les gens essaient de savoir d'où ça vient. Surtout qu'il y a quelqu'un qui attaque Nick Fury, qui n'est pas censé être dans cette dimension. Et donc quelqu'un qui sait que Nick Fury est là. Oui, il s'occupe des Ultimate Avengers, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est un peu en Black Ops, personne ne sait qu'il est de retour.
À part certaines personnes.
À part les Ultimate Avengers, en gros. Et là, bah, il est obligé un peu de révéler sa présence du fait des multiples attaques derrière. Qu'as-tu pensé de cette histoire? Moi, j'ai trouvé ça... Enfin, vite fait, je donne un avis. J'ai été pris tout du long, ça m'a bien plu. Il a créé un ennemi dont on ne sait rien. Je crois que ça va être 3 mini-séries. La suivante s'appelle Ultimate Mystery. Et la dernière, apparemment, ils ne peuvent pas donner le nom parce que sinon, ils nous révèlent de quoi elle parle.
Ok. Bah, disons que moi, je suis un peu ton avis là-dessus. C'est que ça se lit très facilement, ça se lit bien. Et c'est vrai que bah, voilà, on a un nouvel ennemi, un nouvel adversaire, mais on n'en sait rien.
Il a l'air d'être un extraterrestre.
Vachement bourrin. Et puis, on va dire que la fin aussi te donne envie de voir ce qui va se passer.
Oui.
Parce que bah, y a des changements.
Il y a des changements sur un des personnages majeurs de l'aventure. Il se permet des choses qu'on peut se permettre que dans l'univers Ultimate, hein, déjà. Bref, ouais, ça se suit bien, mais c'est vrai que c'est le problème. C'est du popcorn, quoi. C'est de la lecture popcorn, les Ultimates. Bien mené. On se fait plaisir. Et puis le dessin de Rafa Sandoval est très, très, très sympa. C'est un dessin très dynamique, avec une ligne assez claire, un ancrage en plus. Je ne sais plus qui fait l'ancrage, mais... qui utilise très très bien les pleins, les déliés, enfin tout en beauté. J'aime beaucoup ce qui se fait, ce qu'il fait, ou elle fait d'ailleurs, Rafa, je ne sais pas si c'est un prénom masculin ou féminin.
Il.
Il
okay. Est originaire d'Espagne.
Ok. Et bah, ça fait bien plaisir d'avoir un dessinateur aussi sympathique sur cette série.
Non, vraiment, ouais. Intéressant. Voilà. Faudra voir les autres.
Donc, et c'est 5,40€ si on le trouve encore, parce que bien sûr, on est un peu à la bourre sur tout ce qui est kiosque. On finit avec les sorties kiosque.
Avec Ultimate Avenger.
Toujours chez Panini à 4€ et qui nous commence un nouvel arc.
Et qui est le tome 4.
Un 3, nouvel arc 4. Scénarisé par c'est Millar, toujours, il me semble. Et,
oui, yes.
Et dessiné par... Lenil Francis Yu, si je ne m'abuse.
Yes, aussi.
Lenil Francis Yu, que j'aime beaucoup, que j'avais bien aimé sur Wolverine à une époque, et je ne sais plus quelle série où il s'était fait découvrir, qui était assez génial.
Il était aussi sur Secret Invasion aussi.
Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai connu assez tôt. Bref,
je connais pas plus,
nous avons un nouveau Ultimate personnage qui réplique, et c'est le Ultimate personnage le plus cool du monde, le plus subtil, le plus fin. C'est le Ultimate Punisher.
Il est tout en finesse, arrête.
Ouais.
Arrête, le mec, il super bien, je trouve. Il récupère du matos de torture, il flingue tout le monde, il fait dans la dentelle.
Et que veut faire Nick Fury de ce super tueur, après l'avoir récupéré? Il veut en faire un de ses hommes.
Bah, c'est mieux.
C'est mieux qu'il soit de son côté.
Bon, en même temps, il le fait arrêter par Steve Rogers et...
Oui, qui lui tatane la bouche, parce que Steve Rogers, c'est quand même...
Voilà, c'est exactement ça. Il lui tatane la bouche, et puis ensuite, il lui dit, écoute, on va monter une nouvelle équipe, mais encore en dessous des Avengers.
Oui, oui.
Le truc encore plus secret.
Les Black Ops.
Voilà. Ah, tu commences à préparer Slipper.
Ouais.
Aussi avec un petit début sur un nouveau personnage, parce que moi je le connaissais pas, je sais pas si tu as déjà vu.
Non, lui, tel quel, comment il s'appelle? C'est un black qui a été un super héros, je connais pas. En plus, je l'ai lu il y a un moment, donc là j'ai un petit trou de mémoire.
C'est, j'aurais peut-être pas son nom.
Bon, c'est pas grave. Enfin, il présente des nouveaux personnages, c'est de l'intro. Bon, au niveau du graphisme, c'est beau. C'est les Neil Francis Yu. Mm. Des traits très fins, plein de petits traits très fins, quelque chose de très élégant, même pour redessiner un mec qui s'est fait bourriner la bouche. Une mise en scène très cinématographique avec beaucoup de cases très très larges, et puis des splash-pages un peu pour montrer que ça empête. Mais bon, scénaristiquement, on est en superbe attente de ce qui se passe quelque chose, quoi.
Bah, surtout, c'est que l'air de rien, le nouveau groupe d'Avengers, ça va être...
Bah des criminels, quoi.
Ouais, puis quand même des gros bourrins, quand même.
Ouais, ouais. Voilà,
enfin, voilà, tu te dis
parce
pas
que là, voilà, il monte son équipe. Donc, en gros, il passe quand même 44 pages à monter une équipe. C'est sympa, mais bon.
Donc, on va quand même dire qu'il y a peut-être. Hein. Il y a War Machine.
Ouais.
Le mentor de Hulk.
Ouais.
L'Ultimate Punisher. Voilà. Œil de Faucon. Et
ils veulent choper un nouveau qu'on verra dans le tome suivant. Hein, on va pas.
Excuse-moi.
Un nouveau tout feu, tout flamme.
Un nouveau.
C'est un vieux personnage qu'on connaît, mais qu'ils vont récupérer.
Oui, bah, disons que, grosso modo, on lui redonne quand même une nouvelle jeunesse, parce que ça faisait quand même quelques années que...
Il continue chez Marvel, oui. Mais c'est des trucs qu'on lit pas.
Il a sa série, mais bon, c'est pas non plus un grand succès, quoi.
Effectivement. Mais nous n'en dirons pas plus. Ceux qui ont compris, ont compris.
Disons qu'il écume les États-Unis depuis le Far West.
C'est bon, on a fini sur les kiosques.
Ouais.
On va peut-être attaquer des choses un peu plus sérieuses.
La Brigade Chimérique. Le numéro 6 à 11 euros, la fin.
Chez La Talente, nous avons enfin la fin de la Brigade Chimérique. Et donc nous allons... Enfin bon, déjà, remettons le contexte pour ceux qui n'ont pas lu la Brigade Chimérique. C'est une série feuilletonnante qui raconte, et c'est dit dès le premier tome, la fin des super-héros européens.
Cette remarque, elle était pour moi, en fait. C'est au cas où vous ne l'auriez pas senti, mais elle était juste pour moi.
Non, mais pour beaucoup de monde, pour moi aussi, hein, sérieusement. C'est écrit par Fabrice Collin et Serge Lehmann, qui sont deux romanciers, à la base. Dessiné par Guess, qu'on avait pu découvrir sur Carmen McCallum dans un autre registre. Donc, beaucoup plus mainstream, Soleil, série B. Hein. Non, c'est pas Soleil, c'est du Delcourt, d'ailleurs, Carmen McCallum, mais série B, d'ailleurs, en plus. La collection de Vatine et Fred Blanchard, et colorisée par Céline Bessonneau, que je ne connaissais pas.
Alors,
nous avons enfin la chute. Déjà, pour dire quelque chose de simple, j'ai envie de... Oh putain, j'ai pas fait exprès, pardon, excuse-moi.
Ce mot, la chute, non, il passe bien celui-là. Ouais. Comprenne qui voudra. Hein.
Parce que là, on est en train de perdre les derniers auditeurs qui nous restent. Clairement, c'est une série très riche. Je l'ai relue sans avoir relu les précédents et j'étais un peu perdu sur qui fait quoi, qui est qui, car c'est une série très très riche, mais très 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 bien menée. Que dire de cette fin? Si elle n'est pas surprenante, car attendue depuis le départ, sauf que ces scénaristes arrivent à nous embobiner dans leur histoire. Et donc, comme on suit ces super-héros, alors que dès le premier tome, on nous dit qu'on va assister... à leur disparition. Et on croit qu'ils vont gagner, quoi. On croit qu'ils vont s'en sortir. Et on nous l'a dit. Alors, c'est du demi-spoil, parce que je spoil pas. Ils gagnent pas. Ils gagnent pas. Et on le savait. Ouais. Mais on n'y croyait pas. parce que c'était bien mené. Enfin, ouais, voilà, moi, ça m'a bien pris. J'ai trouvé la chute super bien trouvée, super intéressante. Mais Thio, qui est moins bon public que moi, tu n'es pas d'accord.
Et non, parle dans ton micro. Non, mais ça va, je parle dans mon micro, je parle fort aujourd'hui, j'arrête pas de crier là depuis tout à l'heure.
Ouais.
Ouais, donc non, j'étais un peu très déçu par la fin parce que, ben. Alors, peut-être que, effectivement, il l'avait dit dès le premier tome. Bon, ça, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, hein, c'est la fin des super-héros en Europe. Et donc, du coup, il migre vers les
États-Unis. C'est écrit en gros sur le dos du premier tome.
C'est cette fin-là, mais je m'attendais pas à ça.
Tu t'attendais à plus, tu t'attendais à une suite, c'est pas la déception de la fin, c'est
Oui, mais je m'attendais à une autre fin, parce que quelque part, on dit que c'est la fin des super-héros, mais tu te retrouves bien avec quand même des...
Début d'autre chose.
Oui, mais des entités qui restent quand même en Europe.
Oui.
Et du coup, ça reste quand même bien des super-héros aussi.
Oui, mais ça veut dire qu'ils vont peut-être... qu'il y a une possibilité de retour. Il y a cette ouverture-là aussi.
Non, c'était... Ouais. Bon, écoute, non, c'était bien fait. Je veux dire, il y a pas de souci. On est bien dans la continuité de l'histoire, mais c'est vrai que moi, la fin m'a un peu laissé perplexe. Ouais. Une calope qui sert plus à rien, le pauvre.
Mais est-ce que c'est pas le fait justement de la déception de te dire qu'il y aura pas de suite, que t'aurais aimé en avoir plus, ou est-ce que c'est vraiment cette chute que t'as trouvé pas terrible, mal amenée
Bah, disons que, enfin, tu te retrouves quand même avec la brigade chimérique qui arrive devant le boss de fin et les gars, ils ont tout défoncé depuis 3 ou 4 tomes. Et là, en fait, ils arrivent juste devant le dernier, tu vois. Ils ont juste... hop, t'es mort. Voilà, c'est fini.
Enfin, le boss de fin, on voit aussi qu'il avait eu un peu le temps de se préparer.
Oui.
Il avait un peu toutes les cartes en main.
Oui, il avait bien préparé le truc. Et d'un coup, ça va être chacun pour sa gueule, quoi.
Parce qu'on avait un méchant intelligent, quoi, là, pour le coup.
Oui, mais pourquoi est-ce que eux... Ils arrivent jusque-là, ils s'entendent assez bien, et là, d'un coup, hop, en trois cases, on s'entend plus, on se parle plus, chacun fait sa vie, du coup, on se fait dézinguer.
Ils avaient déjà amené un peu ce problème des personnalités, de ces mêmes facettes, parce que c'est les mêmes facettes d'une personnalité, la brigade chimérique. Hein,
oui.
Bon, si vous avez lu les précédents, on ne vous spoil pas. Ils nous avaient montré déjà qu'ils avaient un peu des... Comment ? Qui s'entendaient pas forcément. D'ailleurs, on voit quand on voit le type de personnage, hein, c'est quand même quatre personnages qui forment une équipe, on va dire classique, en fin de compte, si tu regardes bien, mais avec des personnages très différents et des entités très différentes.
Ouais. Ouais.
Enfin voilà. Si vraiment cet univers vous a plu, sachez que un jeu de rôle encyclopédie, enfin c'est vendu comme une encyclopédie, on le trouve d'ailleurs en librairie.
Ça rappelle un autre truc. Ça.
De la brigade chimérique. Faudrait un jour qu'on se fasse un spécial les jeux de rôle qui ont été inspirés de bandes dessinées.
Ouais, on invite Mathieu Gabory.
Oh, de bandes dessinées, on a dit.
On s'en fout, oh.
Ça n'a rien à voir. Non, on pourrait parler de Métabaron, de Légende des Contrées Oubliées, de L'Enfeust, Brigade Chimérique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin bon, il y en a quelques-uns. Quoi ?
Mathieu Gabory, on s'en fout des autres.
Ouais, d'accord. Ah là là, franchement. Bref, qui a une encyclopédie qui redécrit un peu l'univers, qui la remet un peu dans le contexte. Alors, je ne t'ai pas chopé parce que c'est bientôt Noël et que j'ai le droit de rien acheter. Voilà.
Ah bon.
Qui prolonge l'univers. Ils ont créé un système de jeu original. Pareil que je fais un peu confiance aux auteurs qui ont travaillé dessus parce que je connais un peu les différents travaux qu'ils ont faits dans le jeu de rôle. On va dire le jeu de rôle un petit peu indé en France. Et c'est très, très, très bien.
Et donc on continue avec le troisième testament, Julius.
Le tome 1, qui est donc la suite de la fantastique série dont nous avons parlé dans un précédent intégral, qui devait être dans le numéro, je dirais, si je ne m'abuse, 19.
À peu près.
Voilà. Par Xavier Dorizon et Robin Recht.
Oui, on n'est pas d'accord sur le nom. On dit Dorizon ou Dorizon.
Voilà, donc si quelqu'un peut un jour nous corriger là-dessus, ça nous ferait super plaisir.
Et il n'est pas tout seul, il en manque un.
J'ai dit Robin Recht.
Et Alice ?
Oui, Alice, c'est vrai, effectivement, Alex Alice. Oui, effectivement, je l'oubliais. Pourtant, il participe pas mal. Donc, comment ça fonctionne? Xavier Dorizon s'amuse à écrire un spin-off à sa série Le Troisième Testament, qui raconte ce qui se passe avant Le Troisième Testament, c'est-à-dire les aventures de Julius Rimassi,
qui donc a écrit en fait les carnets de Julius qu'on retrouve dans le Troisième Testament.
Qui sont un peu le fil conducteur du Troisième Testament.
Tout à fait.
Il a continué à travailler avec son compère Alex Salis, qui nous fait les couvertures, toujours aussi superbes, et qui fait le storyboard pour Robin Recht, dessinateur qu'on avait pu découvrir dans Totendom. Que je ne me souviens pas avoir lu, mais que toi tu as lu, il me semble.
Yes. Et c'est très très bien. Mais on n'a pas parlé de Totendom, les deux tomes.
J'ai un grand doute. Je ne crois pas.
C'est pas ce qui était sorti. C'est la boîte allemande qui s'appelle l'Arsenal ou.
Non, c'est pas Totendom, c'est Chronique des.
Chronique des Immortels.
Voilà, rien à voir.
Arsenal.
Voilà, c'est pas parce qu'il a un nom consonance allemande que tout de suite.
C'est le même. Fais pas
tous
trop
les Allemands ne sont pas les mêmes. Il y en a des différents. Voilà.
Faut que tu changes ta voix quand tu dis ça, rappelle-toi.
Hein,
tu sais, faut que tu reprennes la voix d'avant-guerre.
Ah oui. Il y en a des différents.
Voilà, c'est bien.
Donc, nous suivons, et c'est assez surprenant parce que. Il y a quelques éléments assez contradictoires avec le Troisième Testament.
C'est-à-dire ?
Alors, bon, malheureusement, on peut difficilement parler de la fin du Troisième Testament parce que Julius peut être lu sans la connaître. Maintenant, si on la connaît, on a une lecture légèrement différente de la BD. C'est ce que je trouve déjà très bien fait.
À ce niveau-là, ça, je suis d'accord, ok.
Voilà, tu es d'accord ? À ce niveau-là, Julius rencontre certaines personnes. Dans le Troisième Testament, on nous dit que c'est sous certaines circonstances, sous certaines choses. Dans cette BD, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc Julius était un général romain ou un truc dans le genre, hein, un tribun, enfin
un général romain.
Ouais, général romain qui était reconnu pour éclater bien la dette à ces juifs là, cette nouvelle secte qui traîne depuis 300 ans quand même, un peu plus.
Ça traîne un peu quand même.
Voilà. Et qui en fait va un peu sur un chemin de rédemption en fait, c'est ça qu'on va suivre quand il se fait trahir par
sa fille.
Par sa fille alors qu'il essayait
de conquérir le pouvoir.
Prendre le pouvoir sur Rome. Voilà. Et il se retrouve bien sûr dans des mines à travailler et il se retrouve au milieu des gens qu'il a un petit peu persécuté.
Et il se retrouve aussi avec un des gars qu'il avait ramené justement de ses conquêtes chez les Hébreux.
Et c'est un de ces nouveaux juifs là, les chrétiens je crois hein, qu'ils s'appellent, qui est vraiment, enfin, t'as envie de le baffer, quoi. Il est tout gentil. Il faut tendre l'autre joue. Il est tout cool. Il a une foi mais monstrueuse. Et lui, ça le gonfle. Juste derrière Massy, il a envie de bien lui péter la gueule, quand même. Hein.
Oui, mais surtout en plus que le nouveau gars en question, il a pas envie d'être un prophète pour les autres, quoi.
Oui, parce qu'il est considéré un peu comme un prophète et il a pas envie, quoi. C'est pas son problème, quoi. Et bah aussi surprenant que ça soit-il. Parce qu'en général, oui, la phrase était petite. donc, parce que moi, je t'avoue que les spin-offs, en général, sur une série qui ont super bien marché.
Ça fait peur.
Ouais, c'est genre, tiens, si on sortait une suite, histoire de dire qu'on va sortir une suite, ça ne m'a pas du tout donné cette impression-là.
Non, moi, j'ai trouvé ça intéressant de recommencer, mais surtout en plus que tu ne recommences pas dans la même atmosphère. Dans la même atmosphère. Oh, putain, la vache, on est dur sur le
rythme. Ah ouais, là, faut qu'on se fasse greffer de nouvelles langues.
Ouais, c'est pas donc possible. En fait, c'est vraiment pas du tout la même ambiance. Sur le Troisième Testament, t'avais quand même, c'était un petit peu le nom de la rose. C'était
ouais, le nom de la rose rencontre Indiana Jones. Hein.
Voilà. Et là, tu te retrouves dans quelque chose qui est différent. Je sais pas. C'est plus, c'est beaucoup plus narratif. T'es vraiment dans un récit et tu suis. Ouais. Enfin, tu suis l'histoire. Oui, normal quoi. Hein, quand tu lis une histoire, mais c'est pas du tout pareil que le Troisième Testament.
Oui.
Mais
oui.
Ça n'est pas inintéressant pour autant.
Et c'est moins de l'aventure, c'est plus l'histoire d'une vie que une aventure, une quête à la recherche d'objets comme on avait dans le Troisième Testament.
Bah, une quête initiatique aussi, voilà. Dans un sens, mais oui. Différente.
Voilà. Donc le dessin. Alors bon, déjà, bon, on va le dire, hein, la narration est très bonne. Alex Salis est un très très bon narrateur. Il nous a fait un superbe storyboard. On en avait déjà parlé sur le Troisième Testament hein, qu'il avait dessiné. Et Robin Recht est un excellent dessinateur.
Mais ça, on le savait déjà.
On le savait déjà, mais qui arrive à se démarquer, c'est toujours assez difficile. On en reparlera en reparlant de spin-off de série le mois prochain. Mais bon, c'est toujours difficile de passer derrière quelqu'un, d'être bon et de laisser sa marque. C'est-à-dire de ne pas être simplement le gars qui dessine derrière l'autre. On ne peut pas dire de Robin Recht que c'est le gars qui repasse les dessins d'Alex Salis. Il a vraiment son style à lui, il a vraiment son approche. De très très beaux dessins, très belle narration. On retrouve un peu ce côté, oui, gestion du noir et blanc qu'on avait chez Alex Alice, qui est sympathique. Mais ça s'éloigne sur certains points. Enfin, il y a toujours quelques dessins superbes. Il a son style à lui.
Bah, disons que t'es pas dans le même univers.
Oui, puis le fait de ne pas avoir la même époque, les mêmes types de costumes, etc., c'est vrai que ça aide aussi à se démarquer un peu.
Voilà, mais... t'as pas du tout le même décor, ce qui fait que du coup, t'as pas du tout les mêmes couleurs.
Oui.
Parce que le paysage vraiment est différent, ça, on peut pas, ça c'est certain.
Oui.
Et non, c'est vraiment bon, intéressant.
On peut pas nier quand même que c'est la même vague de dessinateurs que Alex Alice. Il y a une certaine parenté, mais il se démarque. Et ça, c'est bien. Et ça coûte 14,99€. Chez je sais pas qui, parce qu'on n'a pas le bouquin. C'est qui déjà ?
Delcourt ?
Pouf, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Les gens trouveront.
Je sais pas. Et nous passons à The Boys. The Boys, le numéro 8.
Érogasme.
Érogasme. Alors.
Alors, je vais faire un petit préambule. Nous demandons à tous nos lecteurs mineurs de bien vouloir s'éloigner de leur casque pour un temps. Pour le moment, on est terminé. On va dire que ce que je vais faire, c'est qu'après le montage, je regarderai à combien est-ce que s'arrête cette chronique, où nous risquons d'utiliser plein de gros mots et de dire plein de saletés. Parce que c'est difficile de parler de cet album de The Boys sans le faire. Et donc, revenez à 44 minutes dans le podcast. T'as vu, là, je glisserai le temps et tout en montage, c'est classe. Nous aurons fini de parler d'insanité.
Oui. Alors,
The Boys, Érogasme par Garth Ennis et John McCree continue son exploration du monde des super-héros version trash.
Des super slips.
C'est une mini-série, à la base, qui est censée être indépendante de la série, mais je vois difficilement comment elle peut l'être, en fait.
Elle ne peut pas l'être.
Parce qu'il se passe plein de choses importantes. Et c'est une mini-série qui nous explique que les super-héros, comme tous les ans, doivent aller affronter la menace sur telle planète, et tous ensemble, toutes les équipes vont se réunir pour le faire. Bah, pour faire le méga-crossover, quoi. Et en fait, c'est une blague, c'est pas vraiment ça. Le méga-crossover des super-héros, en fait, c'est le méga-gang-bang. Ils se réunissent tous sur un petit truc pour déstresser, passer un peu leur nerf, et c'est une orgie, mais une orgie dans tous les sens. C'en est même trop. Je pense que Garth Ennis a fait passer tous ses fantasmes super-héroïques dans tous les sens. C'est énorme.
D'ailleurs, je me pose la question. Oui. Elle est où l'interdiction?
Oui,
Pour lecteur averti, moi, j'ai... Oui. C'est quand même limite, quoi.
Comme ils disent nos amis américains, on a quand même de la full frontal nudity. Hein.
Là, c'est clair que c'est...
La full frontal nudity et puis du full frontal acte sexuel, plus ou moins déviant d'ailleurs. Hein.
Touche ma bof.
C'est déviant, non? C'est très déviant quand même. Voilà. Bon. En dehors de ce super... oui, c'est drôle en plus, parce que c'est bourré de blagues, c'est... Bon, même si nous avons fait un petit avertissement, mais on n'est pas explicite sur iTunes, et je ne sais pas si on peut mettre juste un podcast en explicite, tu vois, genre... Bref, il se passe quand même plein de choses autres que les actes de dépravation de ces super-héros horribles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les boys, donc, sont sur place pour une enquête... où ils doivent récupérer un contact, en fait, qui doit leur donner des infos.
Sur les super slips. Non, pas sur les super slips.
Sur Vic Levispré, qui est le vice-président qui a été en fait, mis en place par Void American, qui est donc la société qui gère les super-héros et qui manipule un peu tout le monde, et qui édite les comics. D'un coup, t'as vu, ça a l'air super plus conspiration, machin chose. C'est moins léger, hein. Mm-hmm. Et... Pardon, je viens de penser au... au gars en noir avec son pouce. voilà, bah, pareil, mais il y a des trucs... Ah, mais comment on peut pas raconter? C'est horrible, c'est gore. Enfin bon, bref, Vic Levispré, en plus, se retrouve à cette soirée-là, à cette soirée, cette semaine-là d'orgie, parce qu'il a besoin d'orgie et que Void American a décidé que ça faisait bien. Alors les super-héros sont pas très contents, parce que franchement, ils ont pas envie de se taper ce débile, en fait, de vice-président. Et donc, on a toute l'intrigue qui avance, et toutes les billes des personnages qui sont en train de se poser. Arrête de le feuilleter et de rire seul dans ton coin. C'est terrible.
Écoute, tu racontes, moi je suis en train de le refeuilleter, là c'est...
voilà, et là enfin, tu me montres des pages. Bon.
Donc, continuons.
Bref, manipulation dans tous les sens. Bien sûr, tout le monde est prêt à tout pour réussir de rentrer dans la super équipe des 7, qui sont les mieux. Et essayent donc de profiter du fait que la situation s'y prête bien pour utiliser leur corps pour convaincre les 7. Mais en fait, ils sont un peu manipulés aussi de ce côté-là. Et voilà, en gros, hein, c'est ce qui se passe. Et on a une petite avancée dans l'histoire à ce niveau-là aussi. Les Boys sont assez en arrière-plan, je trouve, dans ce tome. C'est peut-être pour ça qu'ils en ont fait une mini-série.
Disons que tu es quand même plus dans ce qui se passe au sein des super slips et au sein de du pouvoir.
Ouais, et puis on voit qu'il y a une grande tension qui existe entre Void American et les 7, dont, comment il s'appelle le super patriote,
Le
là,
protecteur.
le protecteur, qui est leur Superman à eux, qui essaye de vouloir apparemment changer les choses lors d'une remise des meilleurs du prix de super-héros de la mort, et qui en fait rate un peu sa manipulation et se fait blouser par le gars de Vote American qui est très 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 doué.
Ben, il a réussi à déjouer, on va dire,
Les pieds, enfin il est
les
fort.
subterfuges.
Bref. C'est très très bon. Alors, le dessin, c'est un autre dessinateur, c'est John McCree, même si Derek Robertson fait toujours les couvertures. Qui sont très symboliques, d'ailleurs, les couvertures pour le coup. Pas la couverture du tome 1, mais des autres tomes, genre le protecteur qui vole à côté d'un avion, symbole fort de puissance.
Air Force One. Hein.
Ouais, et puis fort symbole érectile aussi, hein, on va dire, dans la foulée.
Comment ça? Tu trouves qu'un jumbo jet avec l'espèce de grosse forme de gland au
Oui, c'est
bout,
ça.
c'est... Ah ouais.
Ouais. John McCree fait un travail très honorable. Alors, John McCree a beaucoup travaillé avec Garth Ennis, en fait, principalement. C'est un dessinateur irlandais qui fait un très très bon boulot, qui arrive à pas être trop cru, en fait, malgré le sujet, je trouve.
Oui, ça reste, mais c'est assez, enfin, c'est suggestif, on va dire.
Ouais, enfin, il y a full frontal nudity, quoi. Voilà, ce sera peut-être le titre du podcast, d'ailleurs. J'ai l'impression que The Boys va nous amener beaucoup de titres de podcast.
J'aime beaucoup la femme invisible.
Oui, la femme invisible, bah, qui là, pour le coup, il nous montre tout ce qu'ils lui font. Totalement. Toujours aussi excellent, toujours dans le ton. Peut-être qu'ils ont aussi voulu se permettre de faire une mini-série pour parler de plus de sexe, ce qu'ils peuvent moins faire peut-être dans la série régulière, même si je pense qu'ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent.
Ouais, mon avis, c'est quand même pas mal de liberté là-dessus. Mais surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est sur les sets, c'est qu'on a l'apparition d'un nouveau. Enfin, pas l'apparition, on va dire le développement d'un des personnages des 7 que.
Auquel on ne s'attendait pas forcément.
Ouais, et surtout qui était, on va dire, très très
En
transparent avant,
arrière-plan.
quoi.
Ouais. Et puis, c'est pas mal mené. Je trouve que là où il a été intelligent, c'est que je pense qu'il a beaucoup joué. Tu regardes, il y a ces 6 tomes, hein, ces 6 numéros qui sont compilés là-dedans. Les 3 premiers numéros, tu as de l'orgie, du sexe, dans tous les sens. Genre, faisons venir le public, attirons le chaland. Et alors, les 3 derniers numéros, plus rien.
Ouais.
L'histoire reprend le dessus. Je trouve que c'est assez intelligemment mené, d'un point de vue commercial en tout cas. Surtout que le sexe n'est pas que gratuit dans cette histoire, parce que bah, il montre les déviances de ces super-héros de cet univers, et raconte quelque chose d'intéressant, et puis en plus c'est utilisé avec humour. Mais ça reste pour le lecteur très averti.
Tout à fait, tout à fait.
Quelque chose à rajouter sur ce The Boys?
Je crois que ça reste quand même. Je dirais que ça reste un ovni en fait. Hein.
Oui.
Dans tous les cas, dans tout le vin, c'est énorme. C'est énorme. Tu peux pas lire un numéro sans des fois te dire, mais.
Ça va où? Pourtant,
Coco,
c'est bien
voilà.
écrit.
C'est bien écrit.
J'avoue,
Comment, enfin,
j'avoue.
comment il fait pour avoir toutes ces idées, quoi?
Alors, en plus, moi, j'ai voulu commencer à le lire dans le train, en public. J'ai ouvert les premières pages, j'ai commencé à le lire, et je me suis senti très, très gêné. Je l'ai vite rangé, l'air de rien. Donc, The Boys numéro 8, à ne pas lire en public.
Et nous passons donc à quelque chose de totalement différent, la mort de Joseph Staline.
La mort de Staline,
Un
par.
one shot.
Non.
Non?
Et non,
Ah, j'aurais cru que
par.
c'était un one shot,
Ouais,
là,
tout
tu
le monde
vois.
a cru, mais il y a écrit 1 sur 2 sur la tranche. Et je sais
Ah.
pas si tu as remarqué, dans le tome, à un moment, il y a écrit chapitre 1. Oui,
Non.
dans le tome, c'est écrit. Et puis, il n'y a pas de chapitre 2. Donc, c'est de Fabien Nury et de. Zut, Robin. Thierry Robin. Ça coûte 13,50 € et c'est bien. Alors, la mort de Staline.
nous conte ?
La fin de justement du règne de Staline. C'est-à-dire,
vraiment les quelques dernières heures.
Les quelques dernières heures du règne de Staline et la lutte pour qui va prendre la place en tant que premier secrétaire du parti.
Aujourd'hui, dans Tout le monde veut prendre sa place, présenté par Nagui, nous accueillons notre candidat Joseph Staline.
C'est le champion en titre depuis 10 ans déjà.
Que penser de cette histoire ? Quel est le ton ? Parce que c'est vrai que, en gros, Staline ne meurt pas totalement dans cet épisode, il est à l'agonie.
Et là, mal en point, quand même.
Ce qui est assez exceptionnel, c'est la réaction de ses proches et de son entourage.
Tous les membres du parti veulent prendre sa place. Personne, en fait, ne veut vraiment qu'il s'en sorte.
C'est encore plus subtil que ça. Personne n'ose.
Surtout, personne n'ose essayer de le sauver de peur
de rater.
D'être responsable de sa mort.
Voilà.
Parce qu'il se dit, si je m'en occupe et qu'il meurt, je vais finir au goulag, déporté jusqu'à la fin de mes jours, à me peler les noix en écoutant Sonny and Cher. Non.
I get you, babe. Oui, donc tu as une situation assez absurde. Et d'ailleurs, l'introduction est très très bien menée, parce que l'introduction ne nous montre pas Staline du tout. D'ailleurs, on ne le voit à aucun moment en état. L'introduction, c'est un orchestre qui joue un concert, qui passe à la radio. Et en fait, quelqu'un reçoit un coup de fil en lui disant « ça a beaucoup plu à Staline, Staline veut l'enregistrement ». Sauf qu'ils n'ont pas enregistré, et donc ils essaient de faire revenir tout le monde pour réinterpréter le concert pour Staline. Sauf qu'il y a une des solistes qui n'a pas envie parce qu'elle ne veut pas jouer pour Staline. Le chef d'orchestre qui se fait un peu dessus et qui n'arrive pas à assumer, donc ils doivent réveiller un nouveau chef d'orchestre au dernier moment pour refaire l'enregistrement, pour le remettre pour le lendemain à Staline, parce qu'ils savent que s'ils ne lui remettent pas l'enregistrement, ils sont foutus. Et on voit cette peur des gens. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on a ce personnage qu'on voit à peine, en fait, qui est une ombre. Le seul moment où on le voit, il est agonisant, quoi. Il est rien du tout. Et il y a une aura qui est super bien rendue dedans, super bien menée. Enfin, le scénario de Fabien Nuri est très bien mené. Et donc, le chapitre 1, c'est l'agonie. Et je pense que le chapitre 2 va nous montrer les conséquences. Les suites directes de cette disparition de Staline et un peu la période de chaos qui a dû s'en suivre, j'imagine. Je connais pas trop le sujet.
C'est surtout intéressant. Moi, j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue historique, parce que du coup, voilà, tu suis, tu retrouves plein de personnages que tu connais,
historiquement.
Ouais. Historiquement. Voilà. Et du coup, tiens, il y a lui, il y a un chien. Et puis ouais, c'est vrai que tu te dis, ouais, ça doit être ça, quoi.
Fabien Nuri est apparemment un peu un spécialiste de l'histoire de France. Il a écrit une BD qui a beaucoup fait parler d'elle, que je ne connais pas, qui s'appelle « Il était une fois en France », qui apparemment est un beau succès. Il y a le quatrième tome qui est sorti. On commence à beaucoup en parler dans les milieux concernés. Mais c'est vrai que je ne maîtrise pas trop. Parlons un peu de Thierry Robin, son dessin. Je ne me serais pas forcément attendu à le voir dans ce genre d'histoire. Thierry Robin, on le connaît pour Rouge de Chine, pour Koblenz, et pour Petit Père Noël.
Koblenz, ouais. Petit Père Noël, c'est quelque chose.
Ouais, scénarisé par Trondheim. La série muette avec le Petit Père Noël, voilà. Bon, Thierry Robin est un narrateur de génie. C'est quelqu'un qui sait raconter une histoire superbement. Il le prouve dans Petit Père Noël, qui est complètement muet. Bon, même si en plus, là, il doit être aidé par Trondheim, qui quand en général fait un storyboard, le dessine. Quand il fait un scénario, il le dessine. Mais c'est quelqu'un qui sait superbement raconter, qui sait superbement gérer les mises en case et les mises en espace dans une approche qui est, je trouve, très américaine, très comics. C'est-à-dire que souvent, ces pages sortent du cadre, ces cases explosent dans la page. En plus, il a un trait et un trait dans le noir et blanc, quelque chose d'assez sombre, qui peut un peu faire penser à du Mignola en moins maniéré et un peu plus précis, moins brut,
ouais.
Un peu plus fin. Enfin, j'aime beaucoup le travail de Thierry Robin en règle générale. Je ne m'attendais pas à le voir sur une série historique, même si Rouge de Chine, il me semble que c'est une série historique ou un truc dans le genre, mais je ne l'ai pas lu. Il faudrait que je me les chope parce que ça, j'aime tellement ce qu'il fait, ce gars. Un dessin génial.
Tout à fait d'accord.
Voilà, merci de cette précision.
Il y a un moment, tu veux que je te dise quoi comme commentaire? Si je suis d'accord avec toi, je vais te dire non, mais en fait, je vais faire une redite.
Ouais.
Non, je suis d'accord avec toi.
La redite qu'on peut faire, c'est que La mort de Staline est actuellement nominée pour Angoulême. Nous serons en janvier s'il y est. avec diverses autres choses. On a déjà parlé.
Et juste un petit signalement quand même, c'est que soit on a du nez, soit dans ce cas-là, le jury d'Angoulême écoute notre podcast parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a lues.
C'est vrai, on en a eu 7 sur 58 de la sélection.
Hey, t'en as beaucoup qui ont fait ça.
Non, on a été beaucoup plus fort par rapport à la CBD, les critiques de bande dessinée, l'association des critiques de bande dessinée, qui eux, dans leur sélection finale de 5 tomes, de 8 tomes, je crois qu'on en avait lu 5 ou 6, donc autant te dire que c'est plutôt pas mal. Et celui qui a gagné le prix qui a été remis il n'y a pas longtemps, c'est Asterios Polype, que j'adore et qu'il fallait qu'il gagne. Sauf que j'espère que ça ne va pas le disqualifier pour Angoulême et qu'il pourra avoir les deux prix, ça serait cool. Parce que franchement, ça mérite. Suite à cette digression, hein, la mort de Staline, c'est bien. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'attends la suite avec impatience.
Bah, je ne sais pas qu'il y a une suite.
Voilà. Et nous allons pouvoir parler de notre intégrale.
Et là, on touche à quelque chose qui est quand même ancien.
Et pas forcément facile à choper.
Pour là, certains trucs. Là, ça va être compliqué pour certains, là, je suis d'accord.
Alors, nous allons parler de Sleeper. Alors, l'histoire éditoriale de Sleeper est un peu complexe. Car ça a commencé à l'époque où Semic, en tant qu'éditeur, faisait du comics, avant que Panini pique toutes les licences.
Non, enfin, rachète.
Oui, rachète. Bon.
Ils ont pas piqué, ils ont acheté.
Ouais, mais à l'époque, ça m'avait. Oh, pauvre Semic, ça fait des années qu'ils se battent pour que le.
Bah, c'est vrai que les mecs, ils ont fait. On va dire, ils ont ouvert la porte. Et puis, une fois qu'ils avaient bien déblayé devant, ils se sont fait un petit peu piquer tous les droits, les pauvres. Mais bon.
Voilà, bon. Enfin, bon, c'est comme fait ça, un boulot éditorial sympa.
Voilà, donc, moi, c'est comme ça que nous, de l'extérieur, on le voit. Peut-être voilà. Qu'après.
C'est peut-être plus subtil.
Peut-être plus subtil aussi. Hein.
Et donc, ils ont décidé de traduire la série Sleeper de Ed Brubaker en scénario. Ed Brubaker, qu'on aime bien. Pour ce qu'il avait fait par exemple sur Daredevil,
yep.
Juste après Bendis, qui était plutôt pas mal.
Qui était plutôt pas mal.
Voilà. Et puis d'autres choses. Bon, Ed Brubaker est très axé sur le polar noir, les trucs sombres. Et donc ils nous sortent Sleeper. Et pour commencer, ils nous mettent une mini-série qui s'appelle Point Blank, dans un tome 1 qui sort donc chez Semic, qui est la mini-série, on va dire, introductive à la série Sleeper.
Qui nous parle donc de Grifter, qui est un membre des Wildcats, qui est un expert en armes.
On reviendra là-dessus vite fait. Je finis juste un peu l'histoire éditoriale.
Vas-y,
et après, on y va. Semic a perdu les licences, Panini a repris, et Panini a commencé à traduire Sleeper avec un nouveau numéro 1, qui lui reprend la série Sleeper dès le début. Donc le numéro 1 de Sleeper chez Panini et le numéro 1 de Sleeper chez Semic ne sont pas les mêmes, n'ont pas le même contenu. Non, c'est important, parce qu'après quand c'est de t'y retrouver, c'est pas forcément évident.
D'ailleurs, celui-là, il aurait fallu le lire à quel moment ?
Le premier au début.
Au début,
Point Blank, c'est le tout début. Bah, et donc, voilà, on a replacé un peu l'historique. On va passer le contexte. Sleeper se passe dans l'univers Wildstorm, donc l'univers créé par Jim Lee, entre autres, et suit un peu les personnages qu'il y a autour, principalement Lynch, John Lynch, qui était le patron d'une super agence gouvernementale, enfin pseudo-gouvernementale,
IO,
Internal Operations. John Lynch, qu'on avait découvert dans la série Gen 13, dessinée par Scott Campbell. G. Scott Campbell, qui l'avait fait connaître. Oui, non, mais là, c'est quand j'étais au top dans le comics, hein, je maîtrisais le sujet. Donc, qui était une équipe de jeunes super-héros ados, enfin bon. Marrant, fun, cool, enfin, un peu la relève, qui s'est un peu cassé la gueule avec le temps. On reparlera un peu peut-être un jour de ça. Bref, un de ces personnages, c'est Grifter. C'était un petit peu, parce que bon, ils essayaient de calquer un petit peu sur les trucs qui avaient marché. Non, Grifter, c'est plutôt le Wolverine de l'univers.
Oh non !
Ah si, c'est le Wolverine de l'univers Wildstorm. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été présenté au départ. Hein. Au niveau du caractère, au niveau du ton, au niveau de son masque, etc., le personnage solitaire qui est dur à cuire. Il avait un côté plus Wolverine que au niveau du charisme, hein, parce que le Punisher, franchement, au niveau du charisme, au départ, voilà.
Ouais.
Bref.
Ouais. Bref. Donc Grifter, donc qui est à la retraite, a son pote Lynch, qui est à peu près la seule personne à qui Lynch fait confiance hein, dans le monde.
Oui. Pourtant, faire confiance à Lynch.
Enfin, non, Lynch ne fait confiance à personne.
Oui.
Et il fait confiance à une seule personne sur Terre, ce serait Grifter.
Voilà.
Et Grifter est à peu près le seul malade à pouvoir faire confiance à Lynch.
Oui, parce que ce mec-là est un spécialiste de l'espionnage et de donc tout ce qui est vérité, contre-vérité, mensonge, manipulation.
Bien dit. Et donc, Lynch vient le voir pour lui dire qu'il a un nouveau taf pour lui. Il faudrait qu'il l'aide pour enquêter sur le leader d'une...
Une organisation criminelle.
Terroriste.
Terroriste, oui.
Tao.
Tao. Attention, flashback. Tao est un personnage qui a été créé dans les pages de Wildcats. Il me semble qu'à l'époque, c'était la période d'Alan Moore, peut-être. Je crois même que c'est Alan Moore qui l'a créé, j'ai un doute. Qui, en gros, faisait partie de l'équipe de Wildcats. Et qui en fait, les a tous trahis. Mais... Tout simplement.
Il n'a pas trahi, il a trouvé que c'était plus facile de faire autrement.
Voilà, bon. Et qui est une entité... c'est un côté très super-héroïque. Il a une sorte de pouvoir de persuasion assez phénoménal. Il peut mettre quelqu'un dans un état de boucle mentale. Et c'est un personnage... qui n'a aucun sens moral, car c'est une
création
artificielle. C'est une création artificielle.
Alors Tao, c'est Tactical...
Armed, ou je sais plus quoi, ouais, Android, ou je sais plus quoi. Enfin bon, c'est un acronyme à la base.
Tactique d'augmentation d'organisme.
Ouais, ça c'est la traduction française.
Ouais, oh, je te fais ce que je peux.
Okay,
hein.
Okay. Et donc oui, il doit aller enquêter sur...
Sur Tao. Sauf que ça se passe mal, et Lynch se fait tirer dessus.
Bon, on a raconté la fin sans trop en raconter, c'est ça ?
Bah, en même temps, tu peux pas non plus raconter plus.
Oui, parce qu'après, on peut pas raconter la suite.
Tu as l'enquête de Grifter, il va aider donc Lynch, et puis au fur et à mesure, Grifter trouve qu'il y a des choses qui tournent pas rond.
Ouais.
Il se dit, putain, mais j'ai de la merde dans le cerveau ou j'ai de la bouse, quoi, il y a un truc. Et à un moment, il attend Lynch, et en fait, Lynch ne vient pas au rendez-vous. Et il se ressort et il voit Lynch qui s'est fait tirer dessus.
Voilà.
Et là, il va chercher qui a tiré sur Lynch.
Et c'est construit en flashback, en enquête. C'est très, très bien mené. Bref, c'est du bon thriller, quoi, comme mini-série.
Ouais.
C'est dessiné par Colin Wilson, qu'on connaît pour son travail sur la jeunesse de Blueberry. Ouais, ouais. Qui est donc quelqu'un qui a travaillé beaucoup en Europe, en fait. Et qui l'a... Bah, d'ailleurs, ça se voit. Hein, il a un trait très européen. Et qui a un petit côté Jean Giraud, hein. Tu l'as pas marqué ?
Non, ça m'a pas. Bon, en même temps, celui-là, j'ai lu il y a quand même pas mal de temps. Donc,
les couleurs font très. Comment ? Très américaine. Enfin, mais il y a un petit côté Jean Giraud. Et donc, c'est sur cette histoire que s'achève la mini-série Point Blank.
Et on passe commence.
Slipper pour de vrai.
Du terme.
Voilà. Donc, la série Point Blank, juste pour info, donc le slipper numéro 1 de chez Sony, qui n'est pas évident à trouver. Moi, j'ai ramé pour le trouver. On le trouve quand même en occasion, on arrive à l'avoir pour pas trop cher apparemment, c'est encore faisable.
Ça vous coûte juste un œil, c'est tout.
Non, moins cher qu'un Batman Universe.
Oh ben ça va. Alors.
Voilà, non, tu le trouves à 15-20 euros en occasion.
Pour un truc qui est peut-être mieux en plus, enfin qui est mieux même.
Oui, ça, on peut que dire ça. Donc la série reprend et là, Ed Brubaker continue à explorer son histoire mais sous un autre angle, avec d'autres personnages. Et... principalement, et il travaille avec Sean Phillips, qui est son acolyte de prédilection, avec qui il a fait Criminal, Incognito, donc d'autres séries. Enfin, apparemment, ce sont de grands amis, ils aiment beaucoup travailler ensemble. Avant de parler sur l'histoire, parce que c'est quand même ce qui est le plus important dans cette série, Sean Phillips a un style beaucoup moins réaliste, beaucoup plus stylisé que ce que pouvait avoir Colin Wilson. Un style aussi beaucoup plus noir. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Sean Phillips, c'est la façon qu'il a de raconter et de faire sa mise en page, sa mise en case, surtout. Très souvent, on a une image qui sert de toile de fond et les cases qui viennent s'imbriquer les unes à la suite des autres sans suivre le canevas classique. On est très, très, très loin du gaufrier qu'on pouvait avoir à l'ancienne. On a vraiment les cases qui sont placé de façon à faciliter la narration.
Mais alors, je te coupe, mais c'est justement, c'est que c'est vraiment. Enfin, tu te dirais, mais il y a tellement de cases, je sais pas comment je vais les lire. Mais en fait, c'est super intuitif.
Oui, parce que là, on se retrouve quand même en comptant la case principale. Hein, on se retrouve avec 8 cases dans un comics par page. C'est beaucoup. Mais ça lui permet aussi de faire des cases avec des formes très originales, des cases très étriquées, des qui vont vraiment servir son récit.
Bah tu as de tout, tu as des gros plans, tu vas avoir donc l'image de fond.
La splash case.
C'est super.
C'est très très maîtrisé au niveau de la narration et ça en rajoute au ton. En plus, il se permet des cadrages, des décadrages surtout, qui vont rajouter dans le ton. Il a un dessin assez stylisé, mais assez sombre, qui permet d'avoir des femmes très sexy, et puis des sales gueules. Les méchants qui ont des sales gueules, quoi. Tous les personnages ont des sales gueules. Ils ont l'air durs, ils ont l'air... Enfin, on est dans le polar le plus noir possible. Et en plus, il se permet des petites digressions stylistiques lorsqu'arrivent les passages sur les origines. Car un truc qui est très sympa dans cette série, c'est que régulièrement, les personnages se racontent leurs origines. On a l'impression d'être... d'avoir des lecteurs d'un vieux Strange spécial origine qui disent « Oui, et tu te souviens, dans tel épisode, il nous raconte qu'en fait, au début, lui, ce qui lui est arrivé, et il se raconte bah, comment est-ce qu'ils ont eu des pouvoirs, comment est-ce qu'ils sont rentrés dans l'organisation. » Et d'ailleurs, c'est le sujet principal.
C'est toujours la discussion des planques, d'ailleurs. Hein.
Oui, oui.
Dès qu'ils sont
dès
qu'ils sont en mission ou quoi, ils se font « Hop, je vais raconter, machin, comment ça m'est arrivé, ou un truc drôle, quoi. »
Et il reprend un gaufrier classique, pour le coup.
Ouais. Mais ce soit un graphisme qui est bien différent.
Oui, des graphismes moins... il a un ancrage plus clair, il met moins de taches de noir. Donc, que raconte Slipper ? C'est les conséquences de Point Blank. En gros, Lynch
est dans le coma.
Et un des agents qu'il avait infiltré dans l'organisation de Tao, un petit peu en lui forçant la main...
Hein, n'est plus là.
En fait, n'a plus aucun contact. Et le problème, c'est que seul Lynch savait qu'il était infiltré. Pourquoi ? Parce que Tao est tellement intelligent et tellement malin que Lynch n'avait pas d'autre choix que d'avoir un agent qu'il soit le seul à connaître. Et donc lui se retrouve dans une situation très très emmerdante, c'est-à-dire qu'il se retrouve à faire des choses difficiles à faire parce qu'il est du côté des méchants, hein, tout en n'ayant aucun soutien en face. Il est obligé de franchir la ligne en fait, au fur et à mesure.
Tout à fait. C'est bien là le souci d'ailleurs pour lui, parce que il se dit dans tous les cas il faut que je survive quoi. En fait il est là maintenant, vu qu'il est qu'en opération survie, il se dit que il est chez Tao quoi.
Oui c'est ça, il va faire tout ce qu'il faut pour vivre et il va pas chercher plus loin, c'est-à-dire qu'il abandonne un peu sa mission. Et donc toute la série est en deux parties. Enfin, il y a 4 tomes en français, pour 2 tomes on a une partie. La première partie c'est comment je survis et puis comment je monte dans l'organisation de Tao. On le voit petit à petit, qui va monter dans l'organisation, tout en rencontrant des personnages assez sympathiques, que je vais te laisser décrire parce que je parle beaucoup. En plus, tu les as lus il y a moins longtemps que moi.
Qu'est-ce qu'on a comme personnage ? Alors, on va parler de toute façon pour l'instant du bas de gamme.
Ouais, le bas de gamme.
Donc, on a Triple Ray,
Alors, Triple Ray, c'est le gars qui peut voir à travers les objets. C'est le tout malingre qui peut juste voir à travers les objets et qui sert que ça.
C'est un peu un loser.
Ouais.
Génocide.
C'est Génocide Jones, je crois d'ailleurs, ouais. Son nom complet.
Génocide Jones.
C'est leur bourrin de service.
C'est ça.
Il a un pouvoir aussi, lui, je crois.
Putain, je l'ai plus.
Je crois qu'il a une peau super solide ou un truc dans le genre.
Enfin, c'est ça, il est à l'épreuve des balles.
Ouais.
C'est à force d'avoir été dans une centrale nucléaire.
Oui, oui. Les origines, toujours, sont
différentes. Toujours les petites discussions. On a eu Pitbull.
Je me souviens plus de lui.
Lui, on ne raconte pas l'histoire.
Ouais, bon, c'est un petit violent, je crois.
Ouais, après, tu as Black Wolf.
Oui, alors là, on est plus dans les petits avec Black Wolf.
Ah si ?
Ah si, oui, non, Black Wolf, oui, non. Black Wolf, oui, c'est le loup-garou, quoi.
C'est un loup-garou, mais alors, il est black.
Oui.
Parce que c'est...
C'est pour ça qu'il s'appelle Black Wolf.
Voilà. Sinon...
Sinon, il pourrait pas avoir ce nom-là.
Exactement. Après, donc, on passe un petit peu donc, chez les prodiges. C'est là, alors, les prodiges, c'est les lieutenants de Tao.
Voilà.
Donc, au départ, on a Peter Grimm, Miss Misery... Et on en a un troisième, mais qui ne reste pas très longtemps.
Oui. J'ai oublié le nom.
Là, j'ai plus le nom.
Je me souviens plus.
Et son pouvoir, en fait, c'était justement d'imposer ses idées aux autres.
D'imposer ses idées aux autres, oui.
C'est un pouvoir mental, mais je ne l'ai plus. C'est dans le tome 1, je crois.
Donc, en gros, notre héros qui se retrouve infiltré a lui aussi des pouvoirs. En gros, suite à une histoire d'artefacts extraterrestres, machin chose, on va passer, c'est pas le plus important. Il se retrouve avec un truc extraterrestre à l'intérieur de lui.
Je te coupe. Pitbull, oui. J'ai son histoire. Pitbull, ouais. En fait, c'est qu'il a été recueilli dans une famille avec son frère et que le mec qui les a hébergés, c'est sa famille d'accueil, en fait, il faisait des combats de chiens. Et comme son petit frère, un jour, un combat de chien, il s'est mis à pleurer, et il a envoyé le chien, il a envoyé le gamin dans la fosse aux chiens, il s'est fait bouffer.
Ah ouais, c'est toujours des histoires joyeuses. Donc je disais, Holden Carver, le héros, donc, lui a eu un truc extraterrestre quand il bossait chez IO, donc l'agence gouvernementale de John Lynch. Et son pouvoir, c'est qu'en fait, il est devenu insensible à la douleur. Et qu'en touchant quelqu'un, il peut transmettre la douleur qu'il aurait dû ressentir. Donc en gros, s'il se prend une balle, il sent rien du tout. Et s'il te touche, tu sens la douleur de la balle, ce qui est assez énorme. À côté de ça, Miss Misery, donc, qui est, elle, un personnage super intéressant et super complexe, en fin de compte, qui ne ressent aucun sentiment, en fait, hein, je crois. Enfin, Rappelle-moi le pouvoir, parce que je te dis, tu l'as lu il n'y a pas longtemps, moi ça fait, ça remonte.
Miss Misery, en fait, elle se nourrit de la violence, de la mort. Et en fait, elle est plus balèze quand elle a fait mal aux autres, quand elle a tué des gens.
Oui, elle devient plus forte quand elle tue des gens et quand elle leur fait mal. Et Grimm, qui a un pouvoir énorme, je trouve.
Steel Eye, le premier.
Steel Eye, le lieutenant. Donc Grimm, son pouvoir, énorme.
Alors lui, il te fait revenir donc, tous tes cauchemars en boucle, dans ta tête.
Voilà, ce qui est assez terrible. Et donc Holden Carver doit traîner autour de ces gens-là pour faire sa survie, etc. Yaram, donc toute la première partie, on le voit qui monte petit à petit pour se rapprocher de Tao, ce qui était sa mission à la base, hein, quand même. Mmh. Il la poursuit, entre guillemets, mais sauf qu'il prend plus trop de gants derrière.
Surtout aussi, c'est qu'il y a, il va y avoir des événements qui vont faire que Tao va enfin va savoir qu'il a été un agent double.
Oui.
Mais que le problème, c'est que comme il est baisé, bah, il est obligé de rester dans la chance dans la société de Tao. Et donc, bah, Tao lui fait bien consentir que voilà, il sait très bien ce qu'il a fait avant. Il est au courant. Mais
Tao, il est énorme comme personnage. Dans le genre enculé manipulateur, il est énorme.
Bah surtout, c'est qu'il y a quand même aussi toute une société secrète qui est derrière l'histoire, qui dirige le monde. Et en fait, Tao essaye de diriger cette fameuse société. Quoi.
Oui, on a tout un côté de lutte de pouvoir derrière. Alors, la deuxième partie, le statu quo change. En fait, ce qui se passait, c'est qu'au début, il devait y avoir que 12 numéros. Alors, je ne vais pas expliquer en quoi change le statu quo, parce que ça risque de gâcher un peu le plaisir de ce cliffhanger de malade à la fin de la 12e, du 12e épisode. Donc, la deuxième partie, le statu quo change. Ce qui laisse un petit peu d'espoir pour Holden Carver, qui est toujours chez Tao. Sauf que tout le monde sait à peu près tout, et tout le monde fait comme s'il ne savait pas pour essayer de se manipuler les uns les autres. C'est un peu ça, hein, pour résumer sans trop en dire. Et on se retrouve dans une situation d'espionnage terrible avec des agents double, triple, double, mais pas double, mais triple, mais enfin, ça part dans tous les sens. L'histoire est assez complexe pour l'espionnage, assez dense, mais super bien menée.
Bah, surtout, c'est qu'on va se retrouver avec chacun va essayer de récupérer Carver à sa sauce, enfin, de son côté, Carver qui va essayer de jouer des deux côtés en jouant de manière honnête presque, hein, parce qu'il va parler à... Aux deux côtés de la force.
Et puis il sait qu'il n'est pas le plus intelligent et qu'il n'a aucune chance de toute façon de les battre.
Oui, dès le début, il se dit que de toute façon, il y passera tôt ou tard.
Voilà, maintenant, il a juste envie que ce soit à sa manière. Et c'est là qu'il essaye de tirer ses billes. Et c'est tendu, il est toujours sur le fil. Mais c'est ça qui est terrible dans cette BD, c'est que plus ça avance, plus on a l'impression que le fil sur lequel il marche se rétrécit.
Bah, il n'était pas épais au début, voilà. Mais alors à la fin, c'est...
Voilà, on lui fait entrevoir le fait de peut-être pouvoir retrouver une vie normale, quoi.
Ouais.
Même s'il n'est pas sûr de devoir y croire. Enfin, une série vraiment super intéressante. Alors en plus, c'est marrant de revenir sur cette série-là, moi que j'ai trouvé géniale. Wildstorm est en train est fini. Wildstorm, c'est fini, c'est bouffé par DC. Je sais pas comment ça va venir, parce qu'on avait des chouettes licences et des chouettes personnages quand même. Surtout quand ils étaient mis entre les mains d'auteurs de qualité. Sleeper est une série excellente qui, en plus, étant donné que Point Blank est assez difficile à trouver, ne contient que 4 numéros et qui a une histoire complète et avec une conclusion qui tient vraiment la route, qui est très très bien trouvée.
Les tomes, 52 euros.
Voilà, les tomes sont à 13 euros. Le dernier tome vient tout juste de sortir, donc c'est pour ça que j'ai eu envie qu'on en reparle aujourd'hui. C'est un excellent intégral, un très beau cadeau de Noël, je pense aussi. Si vous avez quelqu'un qui aime un peu tout ce qui est polar noir, le côté super-héros peut peut-être un peu rebuter quelqu'un qui n'est pas adepte du super-héros derrière. Surtout le clin d'œil de quand ils se racontent leurs origines, c'est vrai que c'est très adapté à un public de lecteurs de super-héros.
Ouais, mais bon, enfin, faut avouer que si tu veux, ça reste quand même assez pittoresque quand même quand ils te racontent leur histoire.
Hein. Oui, oui.
Parce que si tu veux, c'est pas je suis l'enfant d'une autre planète qu'on m'a envoyé sur Terre et j'ai été recueilli par les fermiers, venu comme ça.
J'étais mordu par une vache radioactive.
Ouais, non, c'est quand même beaucoup plus
gore, trash.
Rigolo.
Voilà. Oui, parfois rigolo. Il y a de l'humour noir quand même dans cette série. Si plus on avance dedans, moins on a envie de rigoler. Hein.
La dernière, là, celle qui a les pouvoirs parce que grâce aux homosexuels.
Ah ouf, je me souviens plus de celle-là. C'était.
En fait, tous ses amis sont homosexuels et en fait, le seul pouvoir qu'elle a, c'est quand elle leur aspire leur force vitale.
D'accord.
Et en fait, comme tous ses potes sont gays, ben.
Elle est super forte.
Ouais, mais sauf qu'elle a plus de potes parce qu'elle les tue à chaque fois.
Ah bah oui.
Donc du coup, c'est...
Bon, enfin, il a créé des pouvoirs vraiment bizarres à ce niveau-là. Enfin, une très très bonne série à lire, que nous recommandons fortement.
Et nous passons donc à la rubrique Online.
La rubrique Online va aujourd'hui s'attacher à une bande dessinée qui s'appelle Fox.
Sans domicile fixe. De Martin Singer, le ou frère de Brian.
Ouais.
Ouais, non, ou pas.
Ou pas. BD fort sympathique. J'ai découvert Martin Singer. Je sais pas, c'est peut-être Singer, j'en sais rien.
Ça, Singer, ça pète.
Singer, ça pète. Allez, Martin Singer. J'ai découvert Martin Singer grâce à son blog où il met des petites histoires humoristiques toujours autour de l'obsession pour les femmes et la volonté de faire des choses avec elles. C'est toujours un peu étrange, marrant. C'est rigolo, mais tu ris un peu jaune parce que on sent qu'il y a une espèce de faux sexisme à l'intérieur de ces gags assez étranges. Sa plus grande hantise dans la vie, c'est les réunions. Régulièrement, il fait des strips où la pire chose du monde doit lui arriver, c'est les réunions. Il a aussi fait toute une série sur les cartes de fidélité. Où en gros, il avait envie de tuer tous les gens qui lui demandaient « Vous avez la carte de fidélité ?» Alors, il tuait quelqu'un et on l'emmenait au commissariat. Et au commissariat, on lui demandait « Vous avez la carte de fidélité ?» Bon, plein de petites BD à l'humour un peu pince sans rire, moi que j'aime beaucoup. Et puis avec un trait un peu naïf, un peu monolithique, qui est assez sympa. Et il s'est lancé dans une petite BD en ligne qui s'appelle Fox sans domicile fixe, qui nous raconte l'histoire de Fox le Terrier, un SDF, et ses mésaventures sur comment il vit, comment il survit, ses différentes techniques pour s'en sortir, tout en nous montrant un peu une évolution très lente dans le personnage. C'est à la fois, c'est pas très aventuresque, hein, c'est pas un truc qui est bourré d'action, mais c'est une grosse critique un peu sociale de ce pauvre gars. En fait, on sait pas comment il arrivait là, on imagine qu'il a un passé, qu'il a oublié, il est un peu simple d'esprit. On a l'impression qu'il a pris tellement de coups dans la vie, en fait, que c'est ce qui l'a amené à être dans cet état. Et bah, lui, tout ce qu'il veut, c'est un endroit chaud où dormir, à bouffer, puis à boire de préférence. S'il peut avoir un peu de rouge, c'est bien. Puis une fois, il arrive à avoir un peu de sous, donc il s'achète un truc un peu meilleur que du rouge, parce que bah, pour une fois, c'est la fête, quoi. Puis il aimerait bien aussi que des femmes s'occupent un peu de lui, juste pour le plaisir, quoi. Hein. Pas d'attachement, rien du tout. Et on suit un peu ce personnage, mais qui fait des choses qui semblent amorales, mais qui pour lui sont tellement... Il tape des gosses pour pouvoir passer les nuits au poste, parce que comme ça, il est dans un endroit chaud. Sauf qu'une fois, il a tapé un gosse, mais il n'avait pas fait gaffe, il n'y avait pas de flic autour, alors ça a servi à rien. Donc voilà, Fox, une bande dessinée que je trouve très jolie, étonnamment. Il y a un côté, comment dire, qui est un peu... Ah, je trouve pas mes mots. Un côté doux, un côté un peu triste dans cette histoire, qui fait sourire mais toujours un peu jaune. Bref, quelque chose à recommander, qui est bientôt donc fini, et qu'on trouve sur le site webscomics.fr, je crois. De toute façon, je mettrai tous les liens sur le blog,
qui est sur notre nouveau site, lavoisdesbulles.fr.
Lavoisdesbulles.fr. Va sur lavoisdesbulles.fr. Et nous allons finir ce podcast en remerciant notre public. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. On a eu pas mal de commentaires. Bienvenue aux nouveaux, principalement Bob, qui nous a laissé plein de commentaires. Mais on va commencer avec un petit commentaire iTunes. N'oubliez pas les commentaires sur iTunes, visibilité, on est visible de partout et tout, ça nous rend célèbre et c'est notre but dans la vie. Parce que là, on est un petit peu caché dans le classement. Donc laissez des commentaires, laissez des notes, ça nous fait toujours en plus super plaisir. Et donc c'est le Dr Koala, rien que son pseudo, j'adore.
Et là, le titre du tuto en fait.
Un podcast qui tronçonne les castors. Voilà, que rajouter de plus, si on va le lire quand même. Un chouette podcast en français pour nous autres amateurs de BD avec un ton léger et agréable. Les deux compères du One A Club, c'est nous, passent en revue des bandes dessinées de tous les genres et de toutes les époques, du mainstream ligne claire à la production indé, de la relique rééditée à l'album fraîchement sorti de l'imprimerie. Tous les albums sont examinés avec passion et bonne humeur, je suis fan. Franchement, il a vachement bien résumé notre objectif. Oui, je suis ému. Ensuite, on a un paquet d'autres commentaires, notamment de aussi de Béran, qui nous félicite. On a eu pas mal de quelques retours sur Asterios Polype et Château de Sable. Je te laisse peut-être en sélectionner un.
Moi, ce qui me fait plaisir, ça veut dire qu'en fait, les gens ils ne font pas que télécharger le podcast, ils l'écoutent aussi.
Oui.
Allez, et oui. Du coup, ils réagissent aussi à ce qu'on dit. Parce que la dernière fois, donc, on parlait de l'Astéro Polype et du Château dans le Sable. Et eux aussi, les fins, ils ont un peu, pour certains, donc pour Béra, en fait, la fin ne l'a pas choqué sur l'Astéro Polype. J'ai même l'impression d'une vraie fin. Pour Château dans le Sable, effectivement, le manque d'explication m'a un peu déstabilisé.
Oui.
Je n'étais pas tout seul.
Château de Sable ? Non, mais pour Château de Sable, moi aussi. La fin m'avait pas top.
Ouais, c'était Astéro Polype, toi, que tu as fait le. Enfin bon. Ensuite, on
c'est
a
Émir. Astéro Polype que tu n'avais pas trouvé top.
Ensuite, donc, on a Emiki aussi qui. Emirki, ouais. Excuse-moi. Alors, moi, j'ai également adoré Château dans le Sable, je l'ai vite dévoré aussi. Et on a. Vahab, qui a lu aussi Château dans le Sable, et en fait, il a beaucoup aimé. Donc, la psychologie des personnages, les relations entre eux qui donnent un bon relief au fantastique. Par contre, lui aussi n'a pas très bien compris la pertinence de l'histoire du Kabyle, même s'il se dit qu'il doit y avoir quand même une histoire là-dedans, un truc important.
Voilà, c'est la même.
Après, il y a d'autres choses aussi qui l'ont un petit peu choqué. Pourquoi le Kabyle saigne toujours du nez, pourquoi le monsieur qui regarde avec des jumelles, pourquoi la scène où on a un gamin qui se fait tirer dessus. C'est vrai que du coup, ça lui a fait penser d'être en face de Lost, et pour lui, ce n'était pas un compliment. Donc...
Ah, la fin de Lost.
Spoil pas, je suis en train de finir là. J'attaque la saison 3.
Il ne reste plus que 3. C'est ouais, bon. Super. Donc, merci à tous. On remercie aussi Pharaxen et Tot qui nous ont laissé des commentaires. Miss Mopi qui, tout à l'heure, m'a souhaité bonne chance pour la mise à jour. Et puis, le compte à rebours. Le prochain podcast. Nous allons mettre assez rapidement en ligne un sondage. Il devrait peut-être même déjà l'être en ligne si on est trop fort.
Non, si tu es trop fort.
Oui. Plusieurs sondages, en gros, qui vont vous permettre de choisir parmi toutes les BD qu'on a chroniquées cette année, quels sont vos préférés dans différentes catégories. Alors, on n'a pas encore défini toutes les catégories. Là, c'est ce qu'on va faire là tout de suite quand on va raccrocher. Pour vous proposer des petits sondages bien sympas, ça sera sur le site. On essaiera de mettre ça en avant. Le site est tout neuf. Il y a les commentaires qui marchent bien, qui sont beaucoup plus agréables que sur le précédent. N'hésitez pas à nous dire ce que vous trouvez bien, pas bien, si je peux faire des retouches pour améliorer les choses. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook/WaneAClub.
Si tu pouvais changer par exemple le truc administrateur, parce que c'est vraiment moche.
Ouais, ouais. va te coucher.
Ok, eh ben débrouille-toi.
Bon, bah pour ça, je vous dis au revoir. Non, mais reviens, Théo. Au revoir.
Au revoir.
Laisse un peu de temps entre deux répliques que je puisse moi ensuite au montage mettre le petit jingle.
Non, rappelle-toi, je t'ai dit que j'allais te pourrir la vie.
Ouais.